Allora, io vorrei iniziare a presentare il prossimo relatore, che il Time Magazine Europa e Stati Uniti ha anche definito nei sei migliori medici delle medicine complementari, l'unico europeo. Mi raccontava che a seguito di questa uscita, che ovviamente ha destato grossa attenzione su di lui, ha ricevuto anche una telefonata per una visita dal re d'Arabia, e lui pensava fosse uno scherzo e rispondeva: sì, io sono il re degli presidente degli Stati Uniti, eccetera. È osteopata, terapeuta e medico, è considerato uno dei più importanti osteopati, soprattutto viscerali, al mondo. Insegna in una scuola sua e un organismo di formazione che ha sede negli Stati Uniti, ma eroga corsi anche in Italia. Do il benvenuto anche al Presidente del Consiglio regionale Albert Lagnès, che ho visto entrare in aula, e gli lascio la parola. L'intervento sarà tradotto simultaneamente e farà utilizzo anche di supporti visivi. Jean-Pierre Barral, la relazione tra corpo e cervello.
Voilà, bonjour, ça marche?
Un moment.
Scusate, ho fatto un errore, un refuso. Il presidente del Consiglio regionale, Albert Cerise, scusatemi.
D'accord. Ça marche ici, oui. Ok, donc, bonjour. Ok, donc, je m'appelle Jean-Pierre Barral, je suis un thérapeute de terrain, c'est-à-dire que je travaille dans un cabinet où je vois des patients.
Mi chiamo Jean-Pierre Barral,
la sono osteopata. Ah, non funziona.
Ok, prova.
Si sente? Ok. Mi chiamo Jean-Pierre Barral, sono un osteopata e lavoro sul campo, nel senso che ho uno studio medico in cui ricevo i miei pazienti.
Donc j'ai l'habitude de voir des gens qui ont des problèmes réels, qui souffrent.
Quindi ho l'abitudine di visitare gente vera che ha problemi reali e che soffre.
Et j'essaie depuis 40 ans que je suis ostéopathe, j'essaie de comprendre ce que je fais, ce qui n'est pas facile.
Da quando faccio l'osteopata, quindi da 40 anni, cerco di capire quello che c'è da fare.
Alors, vous voyez que la photo ici, c'était il y a 20 ans, j'étais beau, j'étais jeune.
La foto che vedete alle mie spalle era di quando avevo 20 anni, quando ero bello e giovane.
Parce que j'avais envoyé une photo récente, ils avaient peur que personne ne vienne en voyant la photo.
Avevo inviato anche una foto recente, ma non l'hanno messa per paura che il pubblico non arrivasse.
Alors donc on va parler du corps humain avec tout ce que ça comporte comme difficulté.
Parleremo quindi del corpo umano e di tutte le difficoltà che comporta.
Et je vous ferai part d'une expérience avec qu'on a faite aux États-Unis sur la réaction du cerveau lorsqu'on traite un corps humain.
E vi presenterò i risultati di uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti su come reagisce il cervello.
Alors, vous savez qu'un corps est toujours en compensation, adaptation.
Allora, il corpo cerca sempre di adattarsi.
C'est-à-dire que lorsque on va recevoir à peu près 10 milliards d'informations par seconde.
Ovvero ricevendo quasi 10 miliardi di informazioni al secondo.
Toutes les secondes, tout est à peu près mémorisé.
E il corpo cerca di memorizzare tutto.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre cœur, vous rappelle, il tape 100 000 fois par jour, le cœur.
Quindi, per esempio, anche il cuore che batte 1000 volte al giorno.
Donc, il va donner des informations au niveau du cerveau qui sait si le cœur a le bon rythme et la bonne vitesse.
Quindi, il cuore dà delle informazioni al cervello in modo che il cervello comprenda se questo appunto batte al ritmo giusto.
Donc, le cœur va envoyer le sang dans les artères.
Il cuore invia il sangue nelle arterie.
100.000 km d'artère.
E 100.000 km di arterie.
Qui donne des informations en permanence sur la dilatation et la force du flux sanguin.
Che danno migliaia di informazioni sulla dilatazione e sulla velocità del flusso sanguigno.
Si a 100.000 km d'artère, il y a 250.000 km de veine.
Se ci sono 100.000 km di arterie, ce ne sono 250.000 di vene.
Qui ont ce qu'on appelle des barreaux récepteurs.
che funzionano come dei recettori di sbarramento.
D'accord. E qui donne des informations au niveau du cœur pour adapter le flux sanguin.
E che inviano delle informazioni al cuore per adattare il flusso sanguigno.
Lorsque vous respirez,
quando respirate,
les bronches ont des petits mécanorécepteurs.
I bronchi hanno dei meccanorecettori
qui analysent instantanément la viscosité de l'air.
Che analizzano istantaneamente la densità dell'aria,
l'umidité de l'air,
l'umidità,
la chaleur de l'air,
il calore,
et qui en fonction de ça donne des informations au niveau central,
e che in funzione di questo inviano informazioni a livello centrale,
pour adapter la bonne dilatation des bronches,
per adattare la giusta dilatazione dei bronchi.
Lorsque vous bougez, vous avez des mécanorécepteurs dans toutes les articulations.
Quando vi muovete, ognuno di voi ha dei meccanocettori nelle articolazioni.
Et qui vont donner en permanence des informations sur le fait que vous soyez vertical.
Che inviano costantemente informazioni sul fatto che si stia in piedi, in posizione verticale.
Et ça va donner des informations pour que les muscles puissent se contracter au bon moment et dans la bonne direction.
E inviano anche informazioni ai muscoli perché questi si possano contrarre al momento giusto e nel modo giusto.
Lorsque vous respirez,
quando respirate,
les mécanorécepteurs du nez,
i meccanocettori del naso,
analysent bien sûr là aussi la viscosité de l'air,
analizzano anch'essi la densità dell'aria,
la chaleur, l'humidité,
il calore e l'umidità,
mais aussi les phéromones.
Ma anche i feromoni.
C'est-à-dire que ce sont des hormones qui sont produites par chaque être vivant.
I feromoni sono degli ormoni prodotti da ogni essere vivente.
Et qui théoriquement excitent les sens sexuels ou sensuels.
E che eccitano i sensi
della sexualité, della sensualité.
Della sessualità o della sensualità.
Ou au contraire, les diminuent, ça dépend de la personne.
O al contrario, li riducono, dipende dalla persona.
Ok. Et ce qui fait que on a un petit organe au niveau du nez.
Quindi è come se ci fosse un piccolo organo a livello del naso.
Qui analyse en permanence ces effluves qui sont générés par les gens qui sont à côté de vous.
Che analizza in modo permanente questi flussi che si ricevono dalle persone che ci sono accanto.
C'est une chose qui est assez curieuse, ils ont fait des analyses pour voir un petit peu si ces phéromones étaient donc vraiment bien analysés par le nez.
C'è stato uno studio interessante che è stato condotto per vedere se questi feromoni sono effettivamente analizzati nel modo giusto dal naso.
E ils savez que les feromones il y a beaucoup au niveau axillaire, au niveau de la sudation axillaire.
Ci sono molti feromoni a livello ascellare, quindi a livello della sudorazione.
Et ils se sont rendu compte que les gens de la même famille souvent n'aimaient pas l'odeur de sueur. Justement, ils pensent peut-être que c'est pour éviter l'inceste. C'est ce qu'ils pensent.
E analizzando appunto questi feromoni ascellari, è stato visto che persone della stessa famiglia non sopportavano l'odore reciproco e è stato indicato come possibile motivo il fatto di evitare l'incesto.
Alors, donc là-dessus, on peut multiplier les exemples.
Qui gli esempi su questo si possono moltiplicarsi.
Mais imaginez que, par exemple, au niveau des reins, au niveau du rein, l'organe.
Ma, pensate per esempio al livello dei reni, dell'organo
dei reni. Vous avez des récepteurs qui sont capables d'analyser.
Anche lì ci sono dei recettori in grado di analizzare.
L'acidité de l'urine.
L'acidità delle urine.
Le flux de l'urine qui passe entre le rein et l'urètre, vous savez le canal qui va entre le rein et l'urètre.
Il flusso che passa quindi dai reni all'uretea.
Le niveau de sodium, de potassium, etc.
Il livello di sodio, di potassio e così via.
Ah oui, quand vous êtes assis devant moi en disant tiens, je suis tranquille, c'est pas moi qui travaille.
E chi è seduto davanti a me che dice beh, non sono io che lavoro.
C'est faux, vous travaillez beaucoup en ce moment.
È falso perché anche in questo momento lavorate molto.
Et c'est pas fini.
E non è finita qui.
Alors donc on a une production hormonale, il faut bien qu'il y ait une différence entre l'homme et la femme.
Quindi abbiamo una produzione ormonale diversa tra uomo e donna.
Et il y a des finesses exceptionnelles au niveau du taux d'estrogène, de testostérone, de folliculine.
E ci sono delle differenze molto sensibili tra estrogeni e così via.
Et moi ce que j'aime bien donner cet exemple par exemple chez une femme, le taux d'estrogène.
Di solito riporto questo esempio in una donna il livello di estrogeni.
Prenez 600 camions citerne plein d'eau.
È come se prendessimo 60 camion cisterna pieni d'acqua.
Et vous mettez un demi verre d'eau dans les 600 camions citerne.
E metteste in questi 600, scusate, camion cisterna un mezzo bicchiere d'acqua.
C'est le taux d'ostrogène qui a qui circule dans le corps d'une femme.
E questo è il tasso di estrogeni che circola nel corpo di una donna.
Donc oui, on est dans l'infiniment petit, on n'est pas dans des choses qui sont
très fortes. Quindi siamo nell'infinitamente piccolo.
C'est pour ça qu'en médecine, il y a de grandes difficultés à gérer le système hormonal.
Ecco perché in medicina è così difficile gestire il sistema ormonale.
Parce que justement, on est dans l'extrême finesse.
Perché appunto siamo nell'estremamente piccolo, nel microscopico.
Alors, au niveau, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant. Le cerveau produit de l'électricité.
Un'altra cosa interessante è che il cervello produce elettricità.
Cette électricité, elle parcourt tout votre corps en permanence.
E questa elettricità percorre l'organismo in modo permanente.
C'est-à-dire, sans que vous en rendiez compte, vous avez un champ électrique. Je ne raconte pas d'histoire, ce sont des choses qui sont prouvées. Un champ électrique sur votre corps.
E cioè, senza che ve ne accorgiate, ognuno di voi, ognuno di noi, ha un campo elettrico nel proprio corpo.
Donc, imaginez maintenant que vous aviez une fracture au niveau du tibia.
Immaginate per esempio di avere una frattura a livello della tibia.
Instantanément le champ électromagnétique est rompu.
All'istante questo campo magnetico viene rotto.
Le cerveau sait qu'il se passe quelque chose d'anormal au niveau du tibia.
Il cervello sa che sta succedendo qualcosa di strano a livello della tibia.
Ce qu'il va essayer de faire, c'est d'augmenter la circulation sanguine pour apporter, c'est une fracture, pour stimuler les cellules qui forment de l'os.
Quindi quello che fa il cervello reagisce mandando più sangue verso la frattura per mandare appunto più cellule sanguigne.
E poi de tas d'autres, il va essayer de mobiliser le calcium.
Poi cerca anche di inviare più calcio verso la zona colpita.
E c'è una cosa che è interessante, sapete che la grande riserva di calcio chez l'homme c'est les côtes.
Per esempio, una cosa molto interessante è la maggiore riserva di calcio nel corpo umano sono le costole.
Alors, il va prendre du calcium dans les côtes, mais il va pas toujours le rendre.
Quindi prende del calcio appunto alle costole, ma non lo restituisce.
Et ça explique pas mal de choses au niveau aussi de l'ostéoporose, des fractures spontanées de côtes.
E questo, per esempio, spiega in parte anche l'osteoporosi e la frattura spontanea delle costole.
Mais ce champ électromagnétique.
Ma questo campo elettromagnetico.
Votre voisin qui est à côté de vous, il a un champ électromagnétique.
Anche il vostro vicino ha un campo magnetico.
Et il y a donc un russe qui s'appelle Sidorov, que je connais bien. Un russe.
Ah, pardon, c'è un russo.
Qui s'appelle Sidorov.
Sidorov.
Et il a fait des expériences, il a montré que les champs électromagnétiques de deux personnes interféraient.
I cui esperimenti hanno dimostrato che i campi magnetici di due persone interagiscono.
Chose que nous on savait, que mes collègues dans la salle savent, mais c'est quand même bien, il a prouvé.
È cosa che io so, che i miei colleghi nella sala sanno, ma che lui ha provato.
Et c'est peut-être l'explication du fait qu'il y a des personnes qui vous attirent, puis d'autres on n'aime pas les sentir autour de nous.
E forse questa è la spiegazione del fatto che ci sentiamo attratte da certe persone mentre altre tendiamo a respingerle.
E c'est peut-être ce qui explique que certains thérapeutes ont des résultats en appliquant la même chose que l'autre. Ils ont des risultati différents.
Ed è lo stesso motivo probabilmente per cui alcuni terapisti applicando la stessa terapia a persone diverse ottengono risultati diversi.
E ce champ électromagnétique il est même la nuit, il circule même la nuit.
Questo campo elettromagnetico c'è anche la notte.
Ok. Et donc en fonction de votre état de santé, il va être plus ou moins important, plus ou moins faible.
E quindi in base al vostro stato di salute diventa più o meno debole.
Et il semble, lorsque un traitement fonctionne, alors qu'il soit allopathique, c'est-à-dire médicamenteux, ou alors en médecine alternative.
E quando un trattamento medico funziona, se un trattamento appunto farmacologico o allopatico?
On a cette finesse de résultat qui fait qu'on peut avoir un effet sur ce champ électromagnétique si on est la bonne personne au bon moment.
Se si è la giusta persona nel giusto momento, si può avere appunto un buon risultato su questo campo elettromagnetico.
Alors, là on est dans le physique, vous savez, vous mettez votre pied par terre. Quand vous mettez votre pied par terre.
Rimane in campo fisico quando mettete, poggiate il piede per terra.
Donc, votre cervelet, la partie postérieure du cerveau.
Il vostro cervelletto, la parte posteriore del cervello.
Reçoit des messages immédiats.
Riceve dei messaggi immediati.
C'est la moquette, c'est la descente, c'est de la montée.
Quindi è la moquette, una discesa, una salita.
Donc, tout ce beau monde, on va voir pourquoi je vous dis toutes ces choses-là après.
E perché vi dico tutto questo?
Tout ce beau monde fait qu'on est quand même des bêtes compliquées.
Perché siamo veramente delle creature complicate.
Mais ce n'est pas fini.
Ma non
ce
è finita qui.
Il y a l'émotion qui est là.
Ci sono anche le emozioni.
Et puis vous verrez que les expériences qu'on a faites vont montrer une chose importante.
E vedrete che gli esperimenti condotti mostrano una cosa importante.
Le cerveau fait pas la différence comme nous entre ce qui est physique et ce qui est émotionnel. C'est pas si simple que ça pour lui.
Il cervello non fa differenza fra ciò che è fisico e ciò che è emozionale, a differenza di noi, quindi non è facile.
Et puis on s'est rendu compte que chaque fois que l'on touchait quelqu'un, qu'on faisait donc une technique sur quelqu'un.
E ci si è resi anche conto che ogni volta che si applica una tecnica su qualcuno, quindi lo si tocca.
Il y avait donc une réaction émotionnelle obligatoire.
C'è anche una necessaria reazione emozionale.
Et c'est toujours pareil, cette réaction émotionnelle est d'autant plus forte qu'on a la main au bon endroit et au bon moment.
Ed è sempre così, se la mano tocca il punto giusto, questa reazione emozionale è sempre più forte.
Alors, le problème aussi, c'est que c'est encore plus compliqué.
Quindi il problema è che è ancora più complicato.
Vous avez votre vie qui est pas facile peut-être, vos émotions à vous.
Anche la vostra vita probabilmente è complicata, anche le vostre emozioni.
Vous avez les émotions de votre maman, de votre papa.
Ma ci sono anche le emozioni di vostro padre, di vostra madre.
Des ancêtres.
Dei vostri parenti, degli antenati.
Et on peut aller jusqu'à Adam et Ève, hein?
E possiamo andare indietro di molti gradi.
C'est que non seulement on a tout ce qu'on a comme problème dans la vie.
Quindi tutti i problemi che abbiamo nella vita non siamo soltanto noi.
Mais en plus on a un sac tyrolien qui est rempli par des émotions des parents.
Ma ci sono anche le emozioni dei nostri genitori che appunto dobbiamo gestire.
Et c'est là qu'on se dit la naissance c'est pas du tout la naissance, c'est bien avant la naissance.
E quindi la nascita non è il momento della nascita, il momento della nascita è ancora précédente.
La naissance c'est l'acte civil, c'est-à-dire que la mairie qui va dire vous êtes né à telle heure à tel endroit.
La nascita è l'atto civile, cioè quello in cui viene scritto a che ora in che giorno si è nati.
Mais les thérapeutes ont une grosse difficulté à savoir quand est-ce qu'un enfant est né.
Ma i terapisti in realtà hanno veramente difficoltà a capire quando si è nati, quando un bambino è nato.
Je ne parle pas de problème ni de religion, etc. C'est plus un problème peut-être hautement philosophique. C'est quoi cette vie qu'on nous a donnée?
E non è un problema religioso, ma forse piuttosto filosofico, cioè quando appunto abbiamo iniziato a vivere.
Alors, lorsqu'on est un thérapeute, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces problèmes? Qu'est-ce qu'on va faire?
Quindi, c'est quand même pas simple. Quando si è un terapista, ci si chiede che cosa fare con tutti questi problemi, come affrontarli.
Alors, le problème, c'est qu'on a une obligation de travailler.
Il problema è che si ha l'obbligo di lavorare.
Dans chaque métier de thérapeute, que vous soyez allopathique ou médecine alternative.
Per qualsiasi terapista, che sia un terapista allopatico o di medicina tradizionale.
Il faut qu'on acquiert une certaine finesse au niveau de la compréhension de l'individu et avec la main.
Bisogna avere una certa sensibilità nel comprendere il paziente e anche una certa sensibilità manuale, tattile.
Et dans la mesure où on commence à avoir cette finesse au niveau, mettons, dans notre métier, au niveau tactile.
E quindi a livello di osteopati, quando si ha questa sensibilità tattile.
Ça nous permet peut-être justement d'aider les gens beaucoup plus qu'on ne pourrait le faire si on ne travaille pas.
Questo appunto ci permette di aiutare le persone molto più rispetto a non fare nulla.
Vous savez, quand on est jeune thérapeute, parfois on est arrogant parce qu'on n'a rien compris. Un jeune thérapeute, un jeune médecin, je ne sais pas, il comprend rien. Il comprend rien.
Spesso quando si è un terapista giovane, un medico giovane, si è arroganti, cioè si pensa di aver capito tutto, ma in realtà non si è ancora capito nulla.
Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais l'impression vraiment que j'allais sauver le monde.
Quando ho iniziato la mia carriera, pensavo di poter salvare il mondo.
Et puis au fur et à mesure, j'ai vu la difficulté de ce qu'est une personne, de ce que je savais que c'était si peu que c'est toujours d'air, toujours de.
Et man mano che la mia carriera avanzava mi sono reso conto di quanto sia difficile aiutare le persone, di quanto sia complicata la persona.
Et lorsque vous voyez un médecin qui est arrogant, il faut partir, il faut même pas payer, il faut partir.
E se vedete un medico arrogante, dovete assolutamente lasciare, andarvene e non pagare.
Et c'est vrai que on a un métier qui est difficile dans la mesure où sincèrement moi je trouve que les résultats à obtenir ne sont pas faciles.
Ed è comunque un lavoro difficile quello del medico e del terapista, perché i risultati sono difficili da ottenere.
Mais quand vous voyez moi ce que j'aime bien par exemple quand vous avez j'ai fait une fois une émission de télévision je crois en Suisse romande.
Una volta nella Svizzera romanda ho fatto una trasmissione televisiva.
Et il y avait une dame qui disait, vous savez, les médecines alternatives, c'est des pompes à fric. On dit en France, c'est pour faire de l'argent, c'est pas pour autre chose.
Et una signora ha detto che la medicina alternativa era soltanto un modo per guadagnare dei soldi, nient'altro.
Alors l'intervieweur m'a dit: est-ce que vous voulez répondre à cette dame?
Quindi il moderatore mi ha chiesto se volevo rispondere a questa signora.
J'ai dit bien sûr, moi au contraire, ça me plaît beaucoup cette question.
E io sì sì, certo, anzi, mi piace molto questa domanda.
Je lui dis même, je ne conteste pas ce que vous pensez. Chacun a le droit de penser, la liberté de penser.
Ho subito detto che non contestavo quello che la signora pensava perché ognuno è libero di pensare ciò che vuole.
Mais je vous donner un exemple.
Ma le ho dato un esempio.
J'ai vu un bébé qui pleurait pendant 7 à 8 heures par jour.
Ho visitato un neonato che piangeva dalle 7 alle 8 ore al giorno.
Tous les traitements avaient échoué, c'est un bébé qui souffrait.
Tutti i trattamenti avevano avuto un esito negativo ed era un bambino che soffriva.
Je crois que si je me rappelle bien, il avait 3 semaines.
E credo che avesse 3 settimane, se ben ricordo.
Et dans notre métier, il existe des techniques que l'on fait au niveau du crâne qui permettent de relâcher la pression intracrânienne.
E nel mio lavoro esistono delle tecniche che si possono fare sul cranio in modo da appunto rilasciare la tensione intracranica, la pressione intracranica.
Puis, petit à petit, le bébé, quand on l'a soigné, il s'est ouvert comme une fleur, vraiment comme une fleur.
E man mano che il bambino veniva curato, è stato subito meglio.
Alors, ça ne marche pas toujours comme ça.
Non succede sempre così.
Mais j'ai dit à cette personne, così. Voyez, au nom de ce bébé, vous pouvez me traiter de charlatan, il n'y a aucun problème pour moi.
Ma l'importante è che questo bambino stia bene e lei può anche trattarmi come un ciarlatano.
Alors, j'ai demandé la technique, si on pouvait avoir le... D'accord? Comme ça, ça évitera de me voir en photo. Alors... Donc ça a été fait... Vous savez, Newport Beach, c'est Orange County, c'est le pays de John Wayne.
Quindi Newport Beach è il paese di John Wayne.
Je sais pas si ça a une relation avec ce que j'ai. OK, donc on va changer. Ça, c'est les sponsors, parce que quand on fait une recherche comme ça, on a besoin d'argent, hein. Donc il y a toujours des gens qui nous donnent de l'argent.
Questi sono i nostri sponsor, perché quando vengono condotti questi tipi di studio c'è sempre bisogno di denaro.
Donc ça, c'est pas votre problème. OK, on change.
Quindi questo non è un vostro problema.
John Wayne.
John Wayne.
Il a gagné partout, hein. Lui, il aurait dû être thérapeute, il soignait toute la terre, hein. Alors ça, c'est, vous me reconnaissez, donc avec la, c'est une responsable des cours qu'on donne aux États-Unis.
Et la signora nella foto è una responsabile dei corsi che vengono svolti negli Stati Uniti.
Voilà, donc on change. Et là, on l'a fait dans une clinique spécialisée. C'est ce qu'on appelle des SPECT scans, single positron electron scanner en tomographie.
E questa è la clinica dove vengono condotti questi SPECT scan, che sono delle tomografie.
Ok, un peu compliqué, où on voit la fonction du cerveau.
Sono esami un po' complicati attraverso i quali si vede la funzione del cervello.
On va changer. Ça, c'est le médecin qui s'occupe de ça.
Questo è il medico che si occupa degli esami.
Ok, on va changer. Encore. Alors, on fait une petite injection radioactive.
Prima di cominciare l'esame si fa una piccola iniezione radioattiva.
Moins que lorsque vous faites une radiographie standard.
E diciamo radioattiva molto meno rispetto a una radiografia standard.
On n'a quand même pas envie de tuer nos pauvres patients.
Perché naturalmente non vogliamo uccidere i nostri pazienti.
Mais les Américains sont des gens qui sont charmants, dès que vous faites de la recherche, ils sont volontaires.
Ma gli americani sono delle persone che nel momento in cui c'è una ricerca in atto si prestano tutti come volontari.
Ils ont payé leur voyage.
Si sono pagati il viaggio,
leur hotel,
il loro albergo.
Ils sont contents et tout va bien.
Sono contenti e va tutto bene.
Alors on change. Alors là, on leur fait faire une épreuve aussi avec un computer, une épreuve d'attention.
Qui è stata condotta una prova di attenzione attraverso un computer.
Ok, on va changer. Alors là, vous voyez, vous avez l'habitude, certains d'entre vous, vous avez passé des résonances nucléaires magnétiques.
Allora, come vedete, questo è un macchinario per la risonanza magnetica, come qualcuno di voi avrà sperimentato.
D'ailleurs, on est étonné, en Italie, tous les gens maintenant ont une IRM, une résonance nucléaire magnétique, hein. Tous presque.
E anche in Italia ci sono molte più persone che fanno la risonanza magnetica rispetto alla Francia.
Sono très, très bien fait, d'ailleurs.
E la fanno tra l'altro molto molto bene in Italia.
Mais pas toujours indispensable.
Ma non è sempre indispensabile.
Bon, on change. Alors on fait mettre la personne dessous.
Quindi si fa stendere la persona.
Ça c'est la Croibier, mon collègue avec qui je travaille.
Questi sono i colleghi con cui lavoro.
On va changer. Voilà, on va changer encore. Alors, ça c'est une patiente. Alors, on a fait comme si j'étais dans mon cabinet, on a testé tout, hein, toute la colonne vertébrale, le crâne, Les organes, c'est vrai qu'en ostéopathie, on peut tester chaque organe, l'utérus, le rein, le foie, la colonne vertébrale. Donc j'ai testé l'ensemble.
Abbiamo condotto una vera e propria visita medica, quindi abbiamo effettuato la palpazione della colonna vertebrale e dell'insieme del corpo.
Voilà, on va changer. Alors là, j'ai fait un traitement au niveau de centre nerveux, au niveau du nerf médian. Vous vous rappelez, mes collègues doivent le savoir. C'est le nerf qui donne le syndrome du canal carpien.
Qui ho condotto un trattamento sul nervo mediale, che è quello che di solito causa la sindrome del tunnel carpale.
Alors on va changer. Alors là, c'est dans la salle, donc on a deux médecins spécialistes de ce scanner.
Ci sono due medici specialisti per questo esame. Ouais.
Alors je rappelle, c'est quelque chose de fonctionnel, hein, c'est-à-dire qu'on voit l'activité cérébrale.
Questo esame esamina la funzionalità cerebrale.
Donc on va changer. Et puis ils vont couper donc le cerveau en différentes tranches.
Quindi il cervello viene come tagliato in diverse sezioni.
Virtuellement, bien sûr.
Naturalmente a livello virtuale.
Ouais. On change. Alors il y a différents plans, mais enfin c'est de la technique, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ces plans.
Quindi l'esame si basa appunto su questa tecnica a sezioni a piani diversi.
Voilà, on va changer. Voilà, on change encore. Alors ça c'est un cerveau, donc c'est en trois dimensions.
Questa è l'immagine di un cervello, l'immagine tridimensionale di un cervello.
E souvent dans les creux, c'est là où on a une fonction qui est un peu moins bonne que lorsqu'il y a une plénitude.
E nelle parti cave è dove la funzione cerebrale è meno attiva rispetto al resto.
Donc, vous avez bien compris, on fait venir quelqu'un qui a un problème qui est réel.
Quindi abbiamo invitato un paziente che aveva un vero problema, un problema reale.
On le soigne.
Lo si cura.
Au niveau du corps, au niveau du crâne.
A livello del corpo, del cranio.
Et on veut savoir ce que le cerveau fait lorsqu'on soigne quelqu'un, quelle est la réaction du cerveau.
E vogliamo sapere qual è appunto la reazione del cervello nel momento in cui il paziente viene curato.
Alors là, regardez bien, ce qui est en rouge, c'est l'activité normale.
Allora, le parti rosse rappresentano l'attività cerebrale normale.
Ah, d'accord. Donc on voit un petit peu que c'est... Et plus ça va vers le blanc... Plus ça veut dire que l'activité qu'on a est importante.
E più il colore diventa bianco, più significa che l'attività cerebrale diventa importante.
On va changer. Alors là, donc, on voit bien la partie postérieure, vous voyez, le cerveau au-dessus, c'est la partie antérieure, c'est le lobe frontal.
Quindi l'immagine in alto indica la parte frontale del cervello.
E la partie postérieure en bas,
la parte posteriore in basso.
Cervelletto, hein.
Il cervelletto, quindi.
Voilà. Ok, on change. Donc là, c'est une vue de face, de profil, pardon.
Qui invece vediamo immagini del cervello di profilo.
Ok, on continue. On va continuer, ça c'est un peu compliqué à expliquer, on va continuer.
Qui continuiamo perché è un po' difficile da spiegare.
On change. Patient numéro 1.
Qui, il paziente numero 1.
Alors, oui. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était rouge, rouge, d'accord.
Comme j'ai dit prima, ci sono queste zone rosse.
Maintenant, on voit que c'est blanc, par exemple. Ici, vous voyez que petit à petit, on arrive sur du blanc.
Invece, qui vedete anche chiaramente le zone bianche, quindi
ça,
man mano si passa al bianco. Questo che sto indicando è il cervelletto.
Ça, c'est le lobe frontal.
Mentre l'altra parte indicata è il lobo frontale.
Le lobe frontal, on est plutôt dans une zone émotionnelle.
Il lobo frontale rappresenta la zona emozionale.
D'accord, on va changer. Alors regardez bien là-haut, il y a une flèche qui s'est mise en route là-haut.
Guardate bene la freccia.
C'est avant le traitement là-haut, d'accord?
Et questo è il cervello prima del trattamento.
Vas-y, tu changes. Donc là, regardez, la flèche là-haut, on voit que c'est rouge, et là, on voit que c'est blanc.
Mentre l'altra freccia indica appunto la parte bianca, quindi il cervello dopo il trattamento ha più parti bianche.
Et vous voyez ce qui est intéressant, c'est quand on touche quelqu'un.
Quindi quello che è interessante è che quando si tocca qualcuno,
la première structure qui va être en action, c'est le cervelet, le centre de l'équilibre.
La prima struttura che reagisce è il cervelletto, il centro dell'equilibrio.
Le centre de la coordination.
Il centro del coordinamento.
Mais aussi de la mémoire courte.
Ma anche della memoria breve.
Des gens qui ont un coup du lapin, un colpo de fausse. Hein?
Mm-hmm. I pazienti che hanno il colpo di frusta.
Ils ont toujours un problème de mémoire courte.
hanno sempre un problema di memoria breve.
Ils se rappellent pas ce qui s'est arrivé.
Cioè non si ricordano quello che è successo.
Par contre, ils se rappellent que leur grand-mère leur donnait une gifle quand ils avaient l'âge de 6 ans.
Al contrario, si ricordano, per esempio, di quello che faceva loro nonna quando avevano 6 anni.
Ah, mais ils se rappellent pas ce qu'ils ont mis du café à chauffer.
Ma non si ricordano, per esempio, di aver messo del caffè a riscaldare.
Allora, on change encore. Vas-y. Là, il y a, alors, voyez cette zone qui est là-bas. La deuxième flèche.
La seconda freccia, quindi la zona più in basso.
On a une zone émotionnelle.
È una zona emozionale.
Qui va être active. Qui va être activée lorsqu'on fait les manipulations.
Che viene attivata, quindi, dalle manipolazioni.
Ok. Vas-y. Et cette zone émotionnelle, c'est tout ce qui est l'amygdale. Par exemple, vous savez, lorsque vous avez peur, vous voyez un serpent devant vous, vous avez peur. Tout de suite la zona emozionale va s'attivare.
E questa zona emozionale è rappresentata dall'amigdala, per esempio quando vedete un serpente, ovviamente il primo impulso è la paura.
On va changer. Et quand vous voyez bien la troisième zone qui est rouge.
Come potete vedere la terza zona che è rossa.
En bas à gauche, qui est rouge, vous voyez comme elle est activée cette zone.
Qui invece si attiva, quindi diventa più bianca.
Alors vous allez dire, mais pourquoi Barral nous emmerde avec ces histoires?
Ma allora adesso potresti chiedervi perché Barral continua a raccontarci tutto questo?
Parce que pour nous c'est important de savoir que lorsqu'on fait un traitement, il y a une telle activité au niveau cérébral, on nous a tellement dit qu'on faisait des choses magiques sans substance, sans faire de recherche. C'est important de le faire.
Perché per noi è importante capire qual è l'attività cerebrale che c'è dopo un trattamento, perché siamo sempre stati accusati di fare cose quasi magiche, mentre questo invece è una prova dell'efficacia del trattamento.
On va continuer. Alors là-haut, c'est une zone aussi émotionnelle, mais
Quindi anche l'ultima zona indicata è una zona emozionale.
Il faut savoir que certaines zones ont été augmentées, la physiologie de certaines zones ont été augmentées de 20%. C'est-à-dire qu'on a augmenté de manière circonscrite l'activité cérébrale de plus de 20% par rapport au début du traitement.
Quindi dopo il trattamento, l'attività cerebrale di alcune zone è stata aumentata fino al 20%.
On va continuer. Je pense qu'on a fait le plus dur là. Vas-y, tu changes. Alors, on revient sur. Vas-y, change. Alors, vous voyez ces zones là-bas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, ce médecin est spécialisé aussi dans les effets de la drogue au niveau du cerveau.
Allora, qui invece vediamo un'altra immagine, il medico che ha condotto l'esame è anche specializzato nei danni cerebrali causati dall'assunzione di droghe.
C'est une sommité mondiale, je veux dire parce qu'on a eu de la chance de travailler avec lui, c'est une sommité mondiale.
Ed è un rappresentante internazionale della.
Je ne porte pas de jugement sur ceux qui se droguent, d'accord?
Non voglio giudicare chi si droga.
Parce que certains ont une vie difficile, je l'admets.
Perché alcuni possono avere appunto una vita difficile.
Mais le cerveau pouvait pas savoir chaque fois que quelqu'un utilise la drogue, il y a une zone de moindre circulation et de souffrance au niveau cérébral.
Ma ogni volta che comunque si utilizza della droga, il cervello ne soffre e in una particolare zona.
Et pas forcément que les drogues dures, c'est pas seulement la marijuana, etc. C'est même des drogues plus douces.
E non si tratta solo degli effetti causati da droghe pesanti, ma anche da droghe leggere.
Alors, il fait des traitements pour voir ce qui améliore l'effet de la drogue au niveau du cerveau.
Quindi vengono fatti anche dei trattamenti per migliorare la situazione causata appunto dalla droga.
Vas-y, change encore. Patient. N'ayez pas peur, il n'y a pas 200 patients.
Non abbiate paura, non ci sono 200 pazienti.
Alors ça c'est le patient numéro 2, il y a toujours des zones de moindre vascularisation et d'activité.
Quindi questo è il paziente numero 2, come vedete ci sono anche qui delle zone meno vascolarizzate.
Alors regardez, alors là c'est, regardez du côté gauche, d'accord, du côté gauche.
Nella parte sinistra, come potete vedere.
Et regardez du côté droit, tout ce qui se passe, tout ce qui est blanc est en activité.
Rispetto all'immagine a destra, quindi tutto ciò che è bianco sono le parti del cervello attive.
Je veux dire que nous, quand on a fait cette recherche, on pouvait pas savoir l'émotion qu'on avait.
Quando abbiamo condotto questa ricerca eravamo veramente emozionati.
Rappelez-vous ce bébé que j'ai soigné, vous savez, pour qu'il pleurait pendant 7 heures, 8 heures par jour.
Vi ricordate del bambino che ho curato di cui vi parlavo prima, quello che piangeva 7-8 ore al giorno?
Que on lui a peut-être changé beaucoup de choses, même dans son activité. activité cérébrale, non son activité cérébrale.
Possiamo aver cambiato molte cose a livello di attività cerebrale anche in questo bambino.
C'est pour ça que t'entends, on a cette chance inouïe se dire j'ai pu aider quelqu'un dans ma vie, c'est une chance.
Ecco perché abbiamo questa incredibile fortuna di poter aiutare qualcuno, di poter dire ho aiutato qualcuno nella mia vita.
Ça c'est le cervelet, d'accord?
Questo è il cervelletto.
E puis toutes ces zones-là sont des zones émotionnelles.
E tutte le altre zone evidenziate sono delle zone emozionali.
Donc il y a jamais de traitement au niveau manuel sans qu'il y ait une grosse réactivité émotionnelle.
Quindi non c'è mai un trattamento manuale senza una grande reattività a livello cerebrale
e
emozionale.
Dans nos métiers, il faut avoir ce respect profond du patient.
Quindi nel nostro lavoro bisogna avere un rispetto profondo per il paziente.
De ce qu'il est, de sa culture.
Di chi è, della sua cultura.
Et ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps de
respecter. E ci vuole del tempo.
Parce qu'au début, il faut qu'on mette son ego dans la poche.
Perché all'inizio bisogna comunque mettersi le mani in tasca.
Et puis après, petit à petit, on devient un peu plus humanitaire.
Un
petit
peu plus. Et poi, appunto, iniziare a conoscerlo meglio.
Et voyez, par exemple, à Grenoble, avec mes collègues. À Grenoble,
per esempio a Grenoble con i miei colleghi
on fait des traitements gratuits pour des enfants handicapés,
facciamo i trattamenti gratuiti per bambini handicappati
et des enfants de famille pauvre,
e per bambini di famiglie disagiate.
C'est pas uniquement pour dire je suis grand, je suis fort, mais parce qu'ils en ont besoin et ils peuvent pas se payer, ils en ont besoin.
E non è certo per vantarmi, lo faccio soltanto perché ne hanno bisogno.
Et ça fait un plaisir fou quand on voit que ces gens peuvent accéder à des traitements qui sont pas forcément remboursés.
Ed è davvero un piacere immenso quando queste persone possono appunto accedere a trattamenti di questo tipo.
Je crois qu'on a essayé de voir, je crois que ah oui, il y en a encore un, on va passer vite.
Se ancora lo faremo velocemente.
On va passer vite et puis vas-y, continue. Allez, continue encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Ouais. Alors OK. Donc on va essayer maintenant. Attends, je vais boire un coup, ça me fait du bien.
Un attimo solo, bevo un goccio d'acqua.
Alors, ce qui est important quand on soigne quelqu'un,
quindi quello che è importante quando si cura qualcuno,
c'est pas une personne qu'on soigne, c'est la vie d'une personne.
Non è tanto il fatto che si cura una persona, quanto la vita di questa persona.
Parce que, voyez, par exemple, les gens, à l'heure actuelle, les recherches montrent que sur quelqu'un qui a un cancer, ça a commencé à peu près 15 ans avant qu'on découvre.
Per esempio, le ricerche dimostrano che esempio, il tumore inizia talvolta 15 anni prima che le cellule, circa 15 anni prima che le cellule tumorali effettivamente vengano individuate.
E noi, le patient qui vient nous voir, il a un symptôme brutal.
E i pazienti che di solito visitiamo hanno dei sintomi molto marcati.
E poi va a dire, monsieur, je viens vous voir parce que j'ai mal au genou, etc.
Per esempio, non riesco a camminare perché ho male al ginocchio.
Et puis nous, il faut qu'on se dise, est-ce que le genou, c'est vraiment la chose la plus importante? Est-ce qu'il n'y a pas là, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt?
Et per esempio, noi dobbiamo cercare di capire se il problema è veramente al ginocchio e se è soltanto la punta dell'iceberg.
Et moi, j'aime bien, c'est un proverbe chinois, bien sûr.
E mi piace ricordare un proverbio cinese.
L'arbre qui tombe.
L'albero che cade
fait plus de bruit que toute la forêt qui pousse.
Fa più rumore di tutta la foresta che cresce.
D'accord. Donc nous le problème c'est savoir que derrière l'arbre, le genou, il y a la forêt qui pousse.
Quindi quello che noi dobbiamo capire è che dietro il ginocchio, visto appunto come l'albero, c'è la foresta che cresce.
Donc quand quelqu'un vient vous voir, il faut se dire c'est sa vie qui vient me voir.
Quindi quando visitiamo qualcuno dobbiamo capire che stiamo in qualche modo visitando anche la sua vita.
Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider un peu plus profondément que de mettre juste de la glace sur le genou?
E quindi cosa posso fare per aiutarlo invece di mettergli soltanto del ghiaccio sul ginocchio?
Et le genou ça peut être simplement un problème gynécologique chez une femme par exemple.
Il ginocchio potrebbe essere un problema ginecologico per una donna ad esempio.
Ça peut être un calcul rénal, hein, pour,
può essere
pour
un calcolo renale, per esempio.
Ok. Ou ça peut être un blocage vertébral, hein, pour hein, qu'on voit souvent.
O può essere un altro tipo di blocco.
Mais vous avez vu dans ces expériences qu'on a faites.
Quindi nell'esperimento che vi ho illustrato.
Il n'y a pas de douleur physique sans projection émotionnelle.
Avete visto che non esistono dolori fisici senza una loro proiezione a livello emozionale.
Je vais vous donner un exemple.
Vi do un esempio.
J'ai un patient qui vient me voir Et parce qu'il y a eu un accident de voiture, et justement son genou a tapé sur le tableau de bord.
Ho visitato un paziente che appunto problema a un ginocchio perché ha avuto un piccolo incidente e ha battuto il ginocchio appunto contro il cruscotto.
Et très curieusement, non seulement il avait mal au genou, mais il était très déprimé pour une chose qui paraissait banale.
E la cosa interessante è che non solo aveva male al ginocchio, ma era anche molto depresso per una cosa che in realtà era piuttosto banale.
Et puis par différents procédés, on a parlé un petit peu de son enfance.
Poi abbiamo iniziato a parlare soprattutto della sua infanzia.
Et il a vu son père qui a eu une fracture de genou en faisant du ski avec lui.
Ed è venuto fuori che suo padre aveva avuto una frattura del ginocchio a causa di un incidente sugli sci.
Ce patient a eu un accident de voiture, il avait mettons autour de 40 ans.
E questo paziente che ha avuto invece un incidente in auto diciamo di 40 anni.
Et quand le papa s'est cassé la jambe.
E quando il padre si è rotto la gamba,
c'est un enfant qui avait 8 ans à peu près.
Era un bambino che aveva circa 8 anni.
La douleur du genou est venue au niveau donc du système émotionnel.
Quindi il dolore provato al ginocchio è arrivato a livello emozionale.
On appelle le système limbique. Qu'on appelle le système limbique.
E si chiama appunto limbico. Il sistema limbico.
Ok. Et ça a réveillé cette peur que l'enfant a vue son papa par terre avec la jambe cassée.
E ha risvegliato appunto questa paura che ha provato il bambino vedendo il proprio padre a terra dopo l'incidente.
Ça explique pourquoi cette douleur de genou banale a été si importante et que ça l'a fait déprimer.
Ed ecco perché questo dolore banale al ginocchio provocava questa depressione in questo paziente.
Donc on peut jamais savoir pourquoi une personne vraiment a mal, pourquoi elle a plus mal que vous. On peut pas juger dans nos métiers.
Quindi è sempre difficile capire, giudicare perché una persona ha male o perché una persona ha più male di un'altra.
Ah, sì, pourquoi juger une personne? On n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation.
Perché quando si valuta una persona non si ha comunque la stessa educazione, la stessa cultura.
Donc on peut très bien avoir mal pour une petite chose parce que ça c'est un symbole de quelque chose de beaucoup plus
grande. Quindi anche una piccola cosa può essere appunto il simbolo di qualcosa di molto più grande.
Mais il y a une chaîne énorme au niveau donc physique et au niveau émotionnel. Il y a une chaîne.
Ma quindi c'è una catena immensa a livello emozionale.
Vous tombez sur les fesses, mettons à l'âge de 5 ans. D'accord.
Et per esempio, cadete il sedere diciamo all'età di 8 anni.
Qu'est-ce que fait le cerveau? Il mémorise cette zone.
Quindi il cervello memorizza questa caduta.
Et il la met de côté, d'accord? Il la met de côté.
E la conserva.
Et puis à ce moment-là, donc un jour vous travaillez, vous soulevez un petit peu lourd.
Poi un giorno state lavorando, state sollevando un peso.
Et vous sentez un peu le mal de dos.
E sentite un po' di mal di schiena.
Une semaine après, vous êtes invité par un ami.
Una settimana dopo siete invitati da un amico.
Gâteau au chocolat.
Torta al cioccolato.
Vin blanc.
Vino bianco.
Fontine, bien sûr.
Fontina, naturalmente.
Elle est bonne en plus, elle est bonne.
Che è molto buona.
Alors, et puis ce gars-là, donc, il mange, il sent qu'il a un petit peu trop mangé.
Quindi questa persona mangia, capisce di aver mangiato troppo.
Et le lendemain, lumbago.
E il giorno dopo ha molto mal di schiena.
Donc, le lumbago, il était inscrit dans les organes.
Quindi questa lombalgia deriva da uno squilibrio negli organi.
Ok. Il était inscrit dans la colonne vertébrale.
E della colonna vertebrale.
Il était inscrit dans le coccyx.
E anche nel coccige.
C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est c'est compliqué de soigner quelqu'un.
Ecco perché è così complicato curare qualcuno.
On peut donner anti-inflammatoire, antalgique, tout le monde sait faire.
Naturalmente si può dare un antidolorifico.
Donc, mais le problème c'est que il faut remonter cette chaîne.
Ma il problema resta e bisogna ritornare indietro, ripercorrere questa catena emozionale.
Et parfois on tombe sur vraiment des choses bizarres, très curieuses.
E a volte appunto si risultano cose davvero bizzarre, strane.
Alors, vous prenez par exemple, on va prendre un autre exemple, je sais pas moi, l'épaule.
Per esempio, un altro esempio, la spalla.
L'épaule, c'est la protection que vous avez autour de vous.
La spalla è la protezione che avete attorno a voi.
C'est les gens que vous protégez. Les gens que vous protégez.
Sono serve per le persone che volete proteggere.
Ok. Et lorsqu'on est en forme, on se tient droit, épaule bien en arrière, on se tient droit.
E quando ci si tiene in forma, si hanno le spalle dritte, ben piazzate.
C'est la timidité. Ok, l'épaule, je suis timide, je suis pas bien.
Mentre la timidezza, per esempio, è caratterizzata da spalle più inarcate.
Je n'ose pas affronter la vie.
Non oso affrontare la vita.
Eccetera, eccetera.
Eccetera.
Lorsque quelqu'un a mal à l'épaule.
Qui, quando qualcuno ha male alle spalle.
Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que juste la périarthrite scapulo-humérale dont on parle.
Può darsi che ci sia qualcos'altro oltre alla periartrite.
C'est peut-être quelque chose donc de beaucoup plus inscrit dans l'émotion, l'attitude de la personne.
Ed è forse qualcosa di più profonda che ha sede nelle emozioni della persona.
C'est pour ça que mes collègues le savent, on a un travail fantastique, nous on a un métier fantastique.
Ecco perché io e i miei colleghi abbiamo un lavoro fantastico.
Dans la mesure où on essaie de comprendre et on sait qu'on comprendra jamais.
Perché continuiamo a cercare di capire e sappiamo che forse non capiremo mai. Ma continuiamo. Ma diciamo si chiude una porta e se ne apre un'altra.
D'accord? Alors, je crois que tout ce que je viens de dire, tout le monde le sait. Je sais bien que vous le savez tous.
Credo che sappiate tutti quello che alla fine ho detto.
Mais ça vaut toujours la peine de l'entendre dire encore et encore.
Ma vale sempre la pena ripeterlo e sentirlo dire di nuovo.
Vous prenez un thérapeute qui est fatigué, il aura vite tendance à aller dans le symptôme. Il aura pas tendance à chercher de partout.
Se un terapista è affaticato, non cercherà la vera causa dei sintomi.
Et puis vous, les patients, vous voulez absolument que la personne vous touche là où ça fait mal. Vous voulez toujours, vous dites docteur, c'est là. Non, cherchez pas là, c'est ici. D'accord.
Ah, et puis naturellement, i pazienti vogliono sempre che i dottori tocchino nei punti dolorosi, cioè non cercate da altre parti, ma il dolore è lì, quindi cercate lì.
Ok, donc moi ce que j'aimerais bien, si vous avez quelques petites questions à poser, parce que ça permet d'échanger un petit peu mieux avec vous.
Quindi se aveste delle domande da pormi, sarei felice perché sarebbe un buono scambio.
En sachant que j'ai vraiment pas la réponse à tout.
Naturalmente non ho una risposta per tutto.
Mais soyez pas timide, ça vaut la peine d'échanger. Ça va m'apprendre des choses. Moi.
Vale la pena avere uno scambio di opinioni.
Ce sera facile, je peux parler en français. Bon, bonjour.
Bonjour.
J'aurais une question. Quelle est votre opinion sur le fait que depuis maintenant 50 ans, même plus, l'être humain est de plus en plus exposé justement à d'autres champs magnétiques, électromagnétiques?
Excellente question. Tu veux dire non, toi?
Dunque, negli ultimi 50 anni, l'uomo è sempre più esposto a altri campi magnetici. Quindi, quali sono, cioè, come questi interagiscono appunto sull'uomo?
Parce que c'est vrai que toi tout à l'heure je parlais du champ électromagnétique qu'on a sur nous, d'accord?
Prima ho parlato del campo elettromagnetico che abbiamo attorno a noi.
C'est quelque chose qui existe en réalité, ça a été mesuré.
È qualcosa di reale che esiste veramente, che è stato misurato.
Lorsque vous faites un électroencéphalogramme à quelqu'un, vous mesurez l'électricité du cerveau.
Quando fate un elettroencefalogramma a qualcuno, misurate appunto l'attività elettrica del cervello.
À l'heure actuelle en France, peut-être en Italie aussi, ils font de la recherche pour savoir s'il est mobile. Toi, c'est les portables. C'est gentil, ouais. Ils font la recherche pour savoir si les portables ont un effet au niveau cérébral.
In questo momento, in Francia, forse anche in Italia, si stanno conducendo studi per valutare gli effetti dei telefoni cellulari appunto sul cervello.
Vous avez bien compris que l'oreille, c'est le trou pour aller dans le cerveau.
Perché naturalmente l'orecchio è il foro che porta al cervello.
Il y a un tout petit doute sur ce qu'on appelle les gliomes. Gliome, c'est un tumore cérébrale.
C'è un piccolo dubbio per quello che riguarda i gliomi, cioè i tumori cerebrali.
All'attuale il pense qu'il y a 8% de plus de tumeurs type gliome au niveau temporal.
In questo momento si pensa che ci sia l'8% in più di questi gliomi a livello temporale.
Que ceux qui n'ont pas le, mais il faut vraiment avoir le portable en permanence. Qui est branché en permanence.
Nelle persone che usano il telefono cellulare veramente in continuazione.
Moi, j'ai fait des recherches au centre nucléaire de Grenoble.
Ho fatto delle ricerche al centro nucleare di Grenoble.
Sur la détection, les infrarouges, les champs électromagnétiques autour d'une personne.
Sugli infrarossi e sui campi elettromagnetici delle persone.
Vous savez, on était vraiment surpris de voir tout ce qu'il y avait autour de nous.
Eravamo veramente sorpresi di vedere tutto quello che c'è attorno a noi.
Alors, quand vous voyez les enfants qui vont à l'école à l'âge de 7 ans, 8 ans avec le portable.
Quindi, quando vedete dei bambini che vanno a scuola di 7-8 anni e che usano il cellulare. cellulare.
Ouais, pour savoir s'ils ont bien mangé la petite barre chocolatée ou la pomme qu'on leur a donnée.
Se hanno mangiato bene, se hanno mangiato la loro barretta al cioccolato.
Moi, je pense que peut-être ça explique peut-être certains enfants qui sont insupportables.
Credo che questo spieghi perché certi bambini sono veramente insopportabili.
Mais je voudrais pas juger. Hein.
Ma non voglio dare giudizi in merito.
C'est un problème qui va sortir dans 10 ans. Dans 10 ans.
È un problema che avrai fra 10 anni.
Ajouter, il n'y a pas que parce que ça c'est un sujet dont on discute, mais il y a 100 ans dans nos maisons il n'y avait aucune source d'électricité artificielle. Dans nos voitures, le frigo, la télévision et tout ça.
Ouais, c'est bien. Ouais. Tu sais, les enfants américains regardent en moyenne 5 à 6 heures par jour la télévision. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous êtes emmerdé pendant mon truc, alors soyez gentils, posez-moi des questions.
Ah, si non ci sono domande, forse non vi è piaciuto il mio intervento.
Ah, trop tard.
No, era un intervento molto semplice, cioè, voglio dire, io sono talmente tanto interessata che vorrei sapere se lei ha delle relazioni, come dire, sulla, insomma, scientifiche chiaramente, anche con alcuni centri italiani, in particolare con Napoli dove io vivo, perché mi piacerebbe molto chiaramente utilizzare questa ricerca anche per il mio personale benessere.
D'accord. Le gros problème des recherches que l'on fait, c'est qu'il faut les écrire.
Cioè, il faut les grande problema delle ricerche che bisogna scriverle.
Et puis il faut avoir beaucoup d'argent.
E poi bisogna avere molto denaro.
Ça c'est à peu près 30 000 euros.
Questa è costata circa 30.000 euros.
Donc on peut le faire deux fois par mois, mais pas plus. Hein.
Quindi si possono fare due volte al mese, ma non di più.
Voilà. Non, mais par contre c'est vrai que, mais toi par exemple, quand on fait la recherche, c'est pour progresser et faire progresser nos collègues.
Ma quando si fa della ricerca è per appunto far progredire i nostri colleghi.
Et je voudrais dire que les ostéopathes italiens, ils ont fait un progrès en 10 ans. Fabuleux.
E devo dire che gli osteopati italiani hanno fatto un progresso eccezionale in 10 anni.
Et je suis bientôt au chômage.
E presto. Sarò disoccupata.
Tu veux poser une question? Vas-y, derrière, oui.
Io ho subito un'operazione, ho del metallo nella spina dorsale. Volevo chiedere se questa cosa qui, il cervello è in grado di lavorare comunque o se ne è influenzato.
Donc si j'ai bien compris, tu as été opéré, c'est ça?
Voilà, il était opéré la colonne vertébrale.
Ouais.
Maintenant, il a du métal dans la colonne. Donc, il se posait la question si le cerveau peut bien travailler même s'il a du métal dans la colonne.
Ben, le problème du cerveau, on a fait quelques petites recherches là-dessus. Il va essayer de dériver un petit peu son champ électromagnétique.
Allora, ci sono state condotte delle ricerche in merito. Il cervello cerca di deviare in modo sensibile appunto il campo elettromagnetico.
Ce qui est très curieux, les gros problèmes comme ça, ça donne moins de problèmes qu'un portable, etc.
Però un'operazione di questo genere dà meno problemi rispetto all'utilizzo del portatile.
E poi all'heure actuelle, les opérations, donc il y en a de moins en moins.
Mm-hmm. Hein? E poi in questo momento le operazioni sono sempre meno.
Et elles sont faites par des neurochirurgiens qui, honnêtement, quand on voit je ne suis pas un fanatique des opérations, mais ils les font bien maintenant.
Infatti, da neurochirurghi che sanno quello che fanno, quindi sono condotti in modo molto buono.
Si tu te sens mieux, c'est que ça a été bien opéré, que ça a été bien fait. Voilà.
Quindi, se è stato operato bene, vuol dire che è tutto a posto.
Je pense qu'il n'y avait pas le choix.
E penso che non avesse comunque altra scelta.
Parce que c'est trop facile de dire, il aurait pas dû, et si, non.
Perché è troppo facile dire, avrebbe potuto non farlo.
Io. A proposito di spalla, ho fatto magnetoterapia, laser e mi hanno consigliato fisioterapia, senza risultati, mi hanno parlato di usura. Quanto incide l'età? Io ho quasi 70 anni, grazie.
T'as la même coiffure que moi, d'ailleurs, tu vois.
Ha la mia stessa pettinatura.
Et donc, sois bienvenue au club.
Benvenuto nel club.
Ok, non, mais le problème de l'épaule, tu sais, ce que tu dis, donc... Il faut dans toutes les techniques, il y a des échecs, d'accord? Toutes les techniques.
Utilizzando qualsiasi tecnica ci possono essere dei fallimenti.
Donc, je pense que si tu as fait déjà de l'électrothérapie, la mésothérapie, etc., etc., ça n'a pas marché, il faut que tu fasses autre chose.
Quindi, se lei ha già fatto queste terapie, è bene che ne scelga altre, che ne faccia altre.
C'est l'épaule gauche ou l'épaule droite?
Spalla destra o sinistra?
Hein, d'accord, c'est l'épaule gauche. Donc, il faut que quelqu'un te regarde au niveau cervical, il faut que quelqu'un te regarde au niveau des côtes, d'accord?
Quindi, bisogna condurre un esame a livello cervicale, a livello delle costole, dello stomaco,
del duodeno,
e
poi peut-être sur l'épaule.
E poi dopo sulla spalla.
E poi tu hai les cheveux qui vont repousser.
E poi forse i capelli ricresceranno.
Non, mais fais, sérieusement, fais ça, parce que l'épaule gauche est très liée estomac, œsophage, cœur.
No, seriamente è bene che lo faccia perché la spalla sinistra è legata appunto allo stomaco, al duodeno e così via.
Ecco. Prego. In terza fila.
Buonasera, io la ringrazio dalla sua bellissima relazione e anche dall'attenzione che ha trasmesso verso la persona e la vita della persona. La domanda che volevo porre è questa. Abbiamo parlato di malattie fisiche. Volevo sapere qual è il suo punto di vista rispetto invece alle malattie mentali o psicologiche.
Ok, donc la relation entre le, ce qui est psychologique.
Oui.
D'accord.
Et le suivant.
Oui. Ok. Merci. Parce que le problème, lorsqu'on parle, c'est une histoire de terminologie. Lorsqu'on parle d'émotionnel, on parle toujours de psycho-émotionnel, d'accord? L'émotion, la définition de l'émotion, c'est une... Excuse-moi. Ouais.
È un problema terminologico. Quando si parla di psicologico, si parla in realtà di psico-emozionale.
L'émotion, la définition, c'est une réaction d'un organe à un stress.
E l'emozione è la reazione di un organo a uno stress.
Et au niveau psychologique, on est sur le degré supérieur.
E a livello psicologico, siamo a livello superiore.
C'est un ensemble de choses, de stress, qui vont créer un désordre au niveau donc psychologique.
C'è un insieme di cose di stress, ouais, che creano un disordine a livello psicologico.
On n'a pas pu faire la différence entre le psychologique et l'émotionnel avec nos recherches.
Nella nostra ricerca non abbiamo potuto fare la differenza fra lo psicologico e l'emozionale.
Par contre, dans notre thérapie,
al contrario, nella nostra terapia,
lorsqu'on voit que le problème est plus psychologique,
quando vediamo che il problema è più psicologico,
nous on n'est pas psychologue, on n'est pas psychanalyste.
Noi non siamo né psicologi né psicanalisti.
On les envoie voir un psychologue.
Quindi invitiamo il paziente ad andare da uno psicologo.
En disant, écoutez, il faut trouver quelqu'un qui a une bonne attitude, une bonne technique là-dessus.
Quindi bisogna trovare qualcuno che sappia usare la giusta tecnica per risolvere il problema.
Ce que tu dis, c'est important parce que il faut pas faire des choses qu'on ne sait pas faire.
Ed è importante quello che dice perché noi non possiamo fare delle cose che non sappiamo fare.
Par respect pour le patient.
Naturalmente nel rispetto del paziente.
Ecco, direi l'ultima domanda perché poi dovremo concludere. Prego.
Grazie, buongiorno. Io sono mamma di due bambini di 10 e 8 anni. Mi sono avvicinata all'osteopatia in quanto il più grande doveva essere operato di adenoidi e tonsille con urgenza e mi è stato consigliato di farlo visitare da un osteopata di Asti. In una settimana ha risolto completamente il problema. Anche la bimba aveva il visino un po' storto e me l'ha raddrizzato in una seduta. Mi è stato spiegato che essendo nati con parto cesareo non hanno subito quel massaggio che consente di risistemare gli organi vari, insomma, anche la parte ossea. Volevo capire quanto questo sia un caso limitato a me e ai miei due bambini oppure è un problema che secondo me, se è risolvibile in questo modo, dovrebbe essere proposto a tutte le mamme che partoriscono con parto cesareo, che più delle volte non è una scelta della mamma.
Donc c'est une grande question. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que l'opération des tonsilles, c'est une spécialité italienne.
Una cosa interessante è che gli italiani sono specializzati nell'operazione delle tonsille.
J'ai cette chance de voir des patients un peu honnêtement de tous les pays du monde.
Ho avuto la fortuna di visitare pazienti un po' da tutto il mondo.
Et pour les Italiens, on sait que tonsilles, c'est pas la peine d'en parler, ils ont été opérés, de toute façon.
E per gli italiani non c'è problema di parlare di tonsille perché sono sicuramente stati operati.
Là aussi, c'est pareil, il faut pas juger.
Anche qui non voglio giudicare.
T'es tombé sur la bonne personne qui a fait le bon traitement.
Lei insomma, le è capitata la buona persona che ha fatto il giusto trattamento.
Lorsqu'on fait un traitement crânien, d'accord?
Ma quando si fa un trattamento cranico?
Ça nous a appris, pas cette photo là, mais les expériences qu'on a faites.
Sulle esperienze, negli esperimenti che sono stati fatti.
On ne sait jamais exactement où le cerveau va répondre.
Non sappiamo mai esattamente il punto del cervello che reagirà.
On donne
che risponderà.
Nous on essaie de donner la bonne information.
Noi cerchiamo di dare la corretta informazione, la giusta informazione.
Il cervello c'è 100 miliardi di neuroni.
Il cervello è 100 miliardi di neuroni.
100 milioni di miliardi di connessioni.
100 milioni di miliardi di connessioni. Quindi non sappiamo mai dove questa informazione arriverà. Quindi in conclusione è riuscita a essere visitata la persona giusta.